Les dessous de l'infox. Sophie Malibeau.
Bonjour, bienvenue dans les dessous de l'infox. Avant, pendant, après la tenue des élections aux États-Unis, la désinformation sur les réseaux sociaux a été massive. Quelle menace cela représente-t-il pour la démocratie américaine? On en parle avec Maxime Chervaux de l'Institut français de géopolitique et l'on appelle à Washington Clayton Vimers, chef du bureau de Reporters sans frontières, RSF, qui appelle Donald Trump à cesser d'attaquer les médias, à respecter la liberté de la presse. Et puis dans sa chronique aujourd'hui, Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de RFI revient sur de fausses rumeurs de coup d'État en Israël, reposant sur des images sorties de leur contexte. Mais tout d'abord, les élections américaines à la loupe avec nos invités. La compréhension de ce qui s'est passé dans les mois qui ont précédé l'élection américaine est très importante pour la suite. On parle beaucoup de l'imprévisibilité de Donald Trump. Ce qui est sûr, c'est que c'est un champion pour brouiller les pistes. Sa conception de la réalité factuelle ne facilite pas l'ouverture d'un débat public serein. Avec Maxime Chervaux, professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique, nous allons essayer de comprendre ce qui a permis à Donald Trump de recueillir une si large victoire. Bonjour Maxime Chervaux.
Bonjour.
Est-ce que vous partagez, du moins, cette première observation, la désinformation a atteint un paroxysme durant ces mois de campagne électorale ?
Alors c'est vrai qu'il y a deux choses. Non seulement on a beaucoup vu de sujets de désinformation aux États-Unis, il y en a eu sur les catastrophes climatiques, il y en a eu sur la légitimité des élections et leur intégrité, et beaucoup d'autres sur les questions de santé. Et en plus, on a beaucoup parlé de la désinformation dans la discussion plus générale sur l'élection américaine, en lui faisant beaucoup plus d'écho que peut-être elle en avait eu à premier abord à chaque fois. Donc c'est une campagne probablement où on a le plus parlé de désinformation aux États-Unis.
Mais c'était assez évident sur les réseaux sociaux, notamment sur le fameux réseau X d'Elon Musk. On a l'impression qu'il y a eu une amplification assez énorme de tout ce qui était infox, vidéos détournées, fabrication d'images artificielles, etc., etc.
C'est vrai que du point de vue des personnes qui essaient de lutter contre les informations, il a fallu se battre sur tous les fronts à la fois. Alors même que, par exemple, en 2016, la discussion sur les informations avait beaucoup plus touché les potentielles ingérences étrangères. Et donc on regardait du côté de la Russie, de la Chine et autres, et sur leur potentiel, on l'a en partie vu trop tard, mais sur leur potentiel influence sur l'élection. Cette fois-ci, il a fallu se battre sur plusieurs sujets de désinformation qui étaient amplifiés par le nombre très important de contenus présents sur les applications et les différentes techniques de désinformation qui se sont, pour certaines, ont été pour la première fois réellement très présentes sur les réseaux. Alors même qu'on en discute beaucoup tout en sachant qu'il est parfois très difficile de réellement voir son impact sur les individualités qui allaient voter aux élections.
C'est difficile de savoir si ça va vraiment pousser à voter dans un sens ou dans un autre, c'est ça.
Exactement, on n'a aucune manière, en tout cas à ce stade, de vraiment savoir si ça a pu faire une différence quelconque à quelques échelles que ce soit des États-Unis. Il faudra peut-être voir, et c'est le travail des sociologues et des enquêtes post-électorales qui vont arriver l'année prochaine et qui vont toucher 20 ou 30 000 individus qui ont été votés. Mais pour l'instant, on ne peut que faire le constat d'un grand nombre de contenus au sein des États-Unis, mais sans pouvoir dire est-ce que ça a pu jouer un rôle pratico-pratique sur les résultats.
On peut se dire quand même que si certains prennent la peine de fabriquer ces contenus, c'est bien que ça a un intérêt quelque part, ne serait-ce que par exemple du point de vue de en tant que campagne de dénigrement politique.
Oui, disons qu'il y a deux choses. La première, c'est que vous avez des contenus qui s'auto-alimentent aussi dans certaines communautés, notamment quand vous regardez toute la désinformation sur les questions de santé autour de l'électorat de Robert Kennedy, qui ensuite a rejoint la campagne de Donald Trump. Vous avez des personnes qui étaient déjà dans cet écosystème, qui ont peut-être trouvé plus d'ampleur et ont élargi leur communauté également durant les mois de la campagne. Mais en même temps, là où la désinformation marche peut-être plus, c'est que vous avez tout un appareil économique qui s'est construit, voire même commercial qui s'est construit autour de la désinformation. Donc vous avez des enjeux économiques derrière maintenant. Et la presse en a beaucoup parlé. Donc rien que pour ça, vous avez probablement des personnes qui ont gagné de l'argent grâce à ça durant la campagne. Maintenant, à savoir si ce sont des personnes qui auraient déjà voté de la manière dont ils ont voté, qui auraient voté pour Trump en grande partie, voire pour des candidats peut-être à la gauche du Parti démocrate également aussi, c'est encore très difficile à savoir.
Mais alors là, des informations sur la santé, par exemple. On va y venir parce que tout ne s'arrête pas à la fin de la campagne. Donc, il y a eu ce discours de Donald Trump au moment où il se présente comme le vainqueur de l'élection. Et à ce moment-là, il mentionne un certain nombre de personnalités, dont celui que vous venez de nommer, Bobby Kennedy.
Une dernière chose, au nom de ce formidable groupe de personnes, des personnes qui travaillent dur, de formidables personnes, on peut rajouter quelques noms, Robert Kennedy Jr., qui va nous aider à redonner la santé à l'Amérique. Il est super et vraiment, il souhaite faire différentes choses. On va le laisser faire. Bobby, tu me laisses le pétrole. On s'occupe du pétrole. On a plus de pétrole que tous les autres pays du monde, plus que l'Arabie Saoudite. On en a plus que la Russie. Alors Bobby, ne touche pas au pétrole. Mais à part le pétrole, fais ce que tu veux. Éclate-toi.
Donc Bobby Kennedy va s'éclater sur la santé aux États-Unis, a priori. On se rappelle tout de même que Robert Kennedy Jr., donc le neveu de Robert Fitzgerald Kennedy, en 2022, il comparait le vaccin, la vaccination anti-Covid à l'Holocauste. Ça présage quelques difficultés quand même sur la gestion de la santé aux États-Unis.
Oui, complètement. Alors, Robert Kennedy Jr. a cette particularité d'être un démocrate qui s'est fait remarquer pendant très longtemps sur les questions environnementales et la lutte contre le changement climatique, d'où la référence au pétrole dans l'extrait. Mais par contre, qui est depuis les années 2010, même la fin des années 2000 de mémoire, est devenu quelqu'un qui est vraiment très mobilisé contre les vaccins, contre la vaccination et qui a pris un regain d'intérêt. Qui a obtenu un regain d'intérêt dans les années 2020-21 au moment de la pandémie.
Mais il se dit aujourd'hui, il dit « je ne suis pas anti-vax », mais malgré tout, son discours l'est.
Son discours l'est complètement. Hein. Son discours l'est, l'a été et l'est toujours aujourd'hui. Les mesures qu'il se promet de mettre en avant lors de l'administration Trump sont de cet ordre-là. Hein. Ils font écho à de nombreuses théories du complot. Et c'est vrai que de cette manière-là, on peut voir l'impact tangible des théories du complot parce que quand vous placez quelqu'un au pouvoir avec un certain type d'autorité sur la question et les politiques publiques de ce domaine, vous pouvez avoir un impact réel des théories du complot dans la pratique.
En tout cas, toute la complotosphère se frotte les mains, y compris la complotosphère française, aujourd'hui reposte cet extrait en disant « bah voilà, c'est notre ami, l'antivax, parce qu'eux, ils n'ont pas de problème avec ça. » Et donc, voilà, il a un franc succès aujourd'hui dans la complotosphère.
Oui, complètement. Et puis, il a eu d'ailleurs un certain écho au sein du Parti républicain à ce moment-là. Non seulement c'est quelqu'un qui fait écho à des théories qui étaient présentes dans un fragment de ce parti républicain assez conservateur, mais il a probablement, ça faudra voir dans les enquêtes post-élection, amené avec lui une petite frange du Parti démocrate qui est également sensible à ce genre de propos. Maintenant, sur son futur au sein de l'administration Trump, il n'a aucune chance d'être nommé à la tête du ministère de la Santé parce qu'il ne passera pas à la confirmation du Sénat et probablement les échelons en dessous. Il peut devenir un conseiller à la santé auprès du président américain, mais il devra beaucoup plus se battre avec les autres personnes qui seront en charge des questions de santé au sein de l'administration Trump. Et bon, il reste à voir encore quels seront ces résultats tangibles une fois Trump président des États-Unis.
Mais on peut s'étonner tout de même que ça n'ait pas eu un effet repoussoir. Ce genre de profil, manifestement, toutes les outrances de Trump et ce type d'acquaintance ne pose aucun problème.
Si, et d'ailleurs, vous avez un président qui a été élu alors qu'il a une cote de popularité négative et moins importante que celle de Kamala Harris. Mais vous avez dans le message de Donald Trump et dans ce qu'il incarne suffisamment de raisons pour beaucoup d'Américains de voter pour lui. Il représente ce qu'une majorité des Américains qui ont été votés veulent. Hein, et ces Américains sont prêts à laisser de côté, passer de côté tous les excès et toutes les individualités gênantes ou qui posent un certain nombre de questions qui gravitent autour de lui.
Alors l'argument, qu'est-ce qui a pu finalement peser le plus efficacement dans cette élection en faveur de Donald Trump?
Alors, je parle sous couvert des enquêtes post-électorales qui sortiront plus tard. À mon sens, Donald Trump a réussi dans son pari de faire croire à une majorité des Américains qu'ils étaient, et d'ailleurs avec un certain succès, et peut-être dans cette manière à raison, qu'ils étaient mieux lotis avant le Covid, et donc du coup avant le début de la présidence de Joe Biden. L'inflation était basse, le prix du pétrole était bas, les loyers étaient beaucoup plus bas qu'ils le sont aujourd'hui, et beaucoup d'Américains avaient le sentiment qu'ils vivaient mieux à cette époque-là. Et c'est quelque chose que Donald Trump a réussi à leur rappeler avec succès, en tout cas pour une partie des Américains. Et c'est vrai que le retour de la croissance, les grands investissements qui ont été faits durant la période, la mandature de Joe Biden, ne cachent pas que cette croissance et ces investissements ont touché les Américains de manière très inégale, et que beaucoup d'Américains aujourd'hui, alors pour qui ce n'était pas le cas avant la pandémie, vivent au jour le jour, salaire par salaire, et avec des réelles difficultés à payer leur loyer ou à faire leurs courses.
Donald Trump critique énormément les médias mainstream, mais ceux-ci ont interrogé la vice-présidente, la candidate Kamala Harris, ne l'ont pas épargnée sur son bilan.
Complètement. Ils n'ont pas épargné. Elle avait cette difficulté d'avoir été une vice-présidente, mais ça c'est souvent le cas chez les vice-présidents assez discrètes, au demeurant, de ne pas avoir imprimé une vraie image politique et un vrai narratif. Ce qu'elle avait déjà eu du mal à faire durant sa campagne pour les primaires en 2019, à l'époque. Et lorsqu'elle est arrivée comme candidate pour le Parti démocrate, assez naturellement, parce qu'elle était la vice-présidente sortante, elle apparaissait aussi comme la nouveauté pour les médias. Et c'est vrai que autant Donald Trump, c'est une vieille histoire, on a épluché son passé minute par minute, autant il y avait encore beaucoup de choses à apprendre sur elle, et peut-être à juste titre, parce que beaucoup d'Américains lui ont reproché, et lui reprochent toujours aujourd'hui, de rester quelqu'un d'assez lisse, d'assez polissé, et beaucoup d'Américains admettent ne pas vraiment la connaître et savoir ce qu'elle, non seulement qui elle est, mais ce qu'elle veut proposer pour les États-Unis, l'image qu'elle veut proposer pour les États-Unis, et ça a certainement joué à son avantages cette élection.
Et elle s'est retrouvée dans la situation de devoir défendre des propositions qu'elle n'avait pas mises en œuvre durant les 4 années précédentes.
Ça, c'est clairement la stratégie qui a été mise en place, c'est d'essayer de trouver, de suivre le bilan de Biden, parce qu'il y avait de très bonnes choses dans le bilan de Biden, du point de vue purement factuel. Il y a eu des projets de loi qui étaient du jamais vu depuis plus de 60 ans, d'investissement notamment dans l'économie, l'utilisation du pouvoir du fédéral américain pour relancer l'économie américaine, mais également pour la transformer.
Ce dont pourrait d'ailleurs bénéficier dorénavant Donald Trump.
Complètement. Il va très clairement en bénéficier des résultats de ce travail, parce qu'on sait que les politiques économiques mettent très longtemps à se mettre en place. De la même manière que Joe Biden a aussi payé l'inflation que Donald Trump a provoquée par la mise en place de droits de douane et sa stratégie de lutte contre la pandémie, autant Donald Trump va bénéficier des gains économiques, en tout cas espérer, des projets de loi mis en place depuis le début de la présidence Biden. Mais la difficulté de Kamala Harris, et ça c'était un choix qui a été fait stratégiquement par sa campagne, et aujourd'hui c'est très critiqué, et on verra si c'est ce qui sera retenu de l'auto-analyse de cette campagne par les démocrates, mais on lui a reproché justement de ne pas avoir su imprimer son image à elle, en restant toujours très proche de Joe Biden, et en étant toujours en difficulté à chaque fois qu'on lui posait la question des choses qu'elle aurait fait différemment, ou des autres choses qu'elle aurait voulu faire lorsqu'elle a été vice-présidente.
Alors, vous disiez, Maxime Sherwood, tout à l'heure, que Donald Trump n'était pas un personnage très populaire, mais il y a tout de même un certain culte de la personnalité autour de lui.
Complètement. C'est le propre des candidats populistes, comme on a un petit peu l'habitude maintenant en 2024. Il y a un réel culte de la personnalité. Il a un soutien extrêmement important au sein d'une frange du Parti républicain, ou de personnes qui n'étaient pas forcément alignées avec le Parti républicain jusqu'à présent, et qui étaient plutôt soit démocrates, soit plutôt indépendants, ou venant d'autres raisons d'ailleurs.
Mais comment est-ce qu'on peut ne pas être populaire et alimenter un culte de la personnalité?
Alors quand je dis pas populaire, c'est-à-dire que vous avez peut-être, certains sondages, c'était 52-55% des Américains qui estimaient pas avoir une bonne image de lui. Vous en avez quand même 40-45 qui ont une bonne, voire une très très bonne image de lui. Donc vous avez quand même, il y a un socle au sein du Parti républicain aujourd'hui qui est dédié à la personne de Trump, et vous avez tout un écosystème d'acteurs, que ce soit au sein du Parti républicain ou dans différents groupes qui gravitent autour du Parti républicain. Je pense non seulement à toute l'infrastructure derrière Elon Musk, mais également à Turning Point USA ou à d'autres groupes qui sont des groupes para-républicains, en tout cas aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est Turning Point?
Turning Point USA, c'est une organisation politique qui a été créée par Charlie Kirk il y a maintenant une dizaine d'années, qui était une organisation de jeunes notamment, et qui a mis en place tout un écosystème dans plusieurs États américains et qui a été utilisé par la campagne de Trump pour aller chercher les électeurs et faire du porte-à-porte durant la campagne. Alors, il restera à voir si c'était très efficace, mais comme ils ont gagné l'élection, on aura tendance à dire que ça a été quand même peut-être assez efficace, notamment dans l'Arizona, peut-être dans le Nevada également. Et donc, du coup, vous avez tous ces écosystèmes qui sont très différents du Parti républicain il y a 15 ans. Ce sont des groupes qui ont émergé durant les années 2010. Vous avez des groupes qui sont un peu les héritiers du Tea Party. Vous avez des groupes qui sont vraiment créés autour de la campagne de 2015-2016 de Donald Trump et qui sont venus meubler le parti depuis en poussant à la porte les autres personnes. Donc, vous avez au sein même du Parti républicain des différents groupes qui gravitent autour, même dans des institutions telles que le Heritage Foundation qui, du coup, a mis en place le projet 2025 pour la campagne de Trump. Tous ces groupes-là, aujourd'hui, sont dédiés à la personnalité de Trump avant même d'être dédiés au Parti républicain. Donc, vous avez vraiment non seulement un groupe militant et une partie de la base qui est dédiée à la personnalité de Trump, mais il a réussi, à la différence de 2016 et 2020, à avoir aussi toute la structure du Parti républicain et des groupes républicains qui est aussi dédiée à sa personne.
Alors, qui dit culte de la personnalité dit rejet de toute critique. Tout ce qui sort de la bouche du président est intouchable. Ça ne fait pas bon ménage avec la presse. On imagine donc que l'altercation entre Donald Trump et les grands médias va se poursuivre ?
Oh, très probablement. Même si je ne serais pas étonné de voir un certain calme relatif jusqu'à janvier maintenant, parce qu'à la différence de 2016, il a gagné le vote populaire également. Et pour l'instant, il n'a pas de nouveaux sujets à amener sur la table dans sa relation avec la presse. Alors, sur la question des critiques, je serais un petit peu plus mesuré, parce qu'une des choses qu'on a vu beaucoup durant son premier mandat, c'était d'innombrables critiques en off qui venaient de l'administration présidentielle américaine ou qui venaient de l'État fédéral américain, donc de républicains qui, en off, ne se limitaient pas dans leurs critiques du président américain.
Oui, mais du coup, on a aussi vu qu'il y avait un énorme turnover. C'est-à-dire, les gens ne restent pas un Steve Bannon qui aujourd'hui prend fait et cause pour Donald Trump. Lui a été mis à la porte à un moment donné.
Complètement. Et donc, ça sera intéressant de voir dans la présidence qui va arriver maintenant. Et ça sera aussi un signe quant à savoir s'il a vraiment réussi à complètement coopter le Parti républicain et les groupes alentours. Voir si les personnes qu'il va nommer sont cette fois-ci plus des ralliés de la dernière heure, pour beaucoup d'entre eux, comme en 2016-17, mais des personnes qui sont des purs produits de la mouvance, entre guillemets, MAGA. Donc, du coup, des personnes qui ont émergé politiquement ou qui ont réémergé politiquement avec l'arrivée de Donald Trump.
Est-ce qu'il peut changer de Donald Trump ? Est-ce que le Donald Trump du deuxième mandat peut être différent de celui du premier parce qu'il aura quelque chose à laisser puisqu'il ne pourra pas se représenter théoriquement ?
Si justement il est sans filtre parce qu'il ne pourra pas se représenter, ça aurait tendance à laisser penser qu'il pourrait être encore plus sans filtre qu'il était auparavant. Maintenant, ce n'est pas seulement Donald Trump, c'est Donald Trump et les personnes qui l'amènent avec lui au pouvoir. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus encore parce que vous avez beaucoup de personnes qui gravitent autour de lui en 2017 et après, qui n'avaient pas l'expérience du gouvernement et qui ont fait des erreurs. On sait par exemple qu'à part le grand projet de loi de baisse des impôts, il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire avec un congrès qui lui était favorable, mais qu'il n'a pas réussi à faire parce qu'il n'a pas réussi à négocier avec le congrès républicain. Donc j'aurais tendance à regarder si cette fois-ci, les personnes qui arrivent, qui justement ont appris de leurs erreurs au pouvoir à l'époque, sont beaucoup plus intelligents dans leur pratique, notamment des relations entre les institutions. Et ça sera peut-être la marque quant à savoir si la seconde présidence sera la même, ou la même empire, ou la même un peu plus modérée, même si Trump, cet été, s'est agacé d'être un peu trop policé par ses stratèges de campagne, ou aussi, au contraire, c'est une présidence beaucoup plus pragmatique par rapport à... on veut faire passer ces différents projets. Quelle est la meilleure manière et la manière la plus institutionnelle de pouvoir réussir à y arriver ?
Merci beaucoup, Maxime Chervaux. Je rappelle que vous êtes donc professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique, donc spécialiste des États-Unis. Alors, au lendemain de la victoire électorale de Donald Trump, Reporters sans frontières s'est adressé publiquement au futur président des États-Unis pour qu'il cesse de s'attaquer aux médias et tourne la page pour la liberté de la presse. Bonjour Clayton Vimers.
Bonjour.
Vous êtes directeur du bureau RSF aux États-Unis. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes en ligne avec nous depuis Washington. Alors, en fait, ces attaques de Donald Trump contre les médias sont allées crescendo pendant toute cette campagne.
Oui, exactement. Notre analyse a trouvé que pendant les derniers deux mois de la campagne, Donald Trump a attaqué les médias au moins deux fois par jour, 108 fois, pendant une période de 8 semaines à la fin de la campagne. C'est, comme vous avez dit, vraiment un crescendo. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'il a l'air d'inciter la violence contre la presse. Surtout la presse qui est assemblée là pour couvrir ses démonstrations et ses discours. Il a même imaginé une situation où un assassinat se prend place en tuant des journalistes qui sont assemblés pour son discours.
Quelle est la nature de votre appel à Donald Trump? Qu'est-ce que vous lui demandez en fait?
On lui demande de cesser ses attaques et de changer le ton de son discours avec la presse parce que ça crée une situation très dangereuse pour eux. On a déjà trouvé que la situation de la sécurité de la presse est en train de devenir de pire en pire, surtout dans les États qu'on appelle les swing states qui ont décidé l'élection. RSF a publié un rapport il y a quelques semaines qui a trouvé la situation pour la liberté de la presse dans les États comme l'Arizona, le Nevada, le Pennsylvanie, qui sont les plus importants pour les élections, sont des États qui sont le pire pour la sécurité des journalistes.
Ce rapport, on peut le consulter en ligne et d'ailleurs on le mettra en lien sur notre site internet. Il est très intéressant, il montre que c'est la profession elle-même de journalisme qui devient vraiment très difficile. On connaît bien des grands médias comme CNN, de grands journaux qui ont une grande réputation, mais on ne se rend pas compte que dans certains États, c'est très compliqué de faire son métier là-bas.
Exactement. Il y a des problèmes qui sont très bien connus, comme l'économie du journalisme devient de plus en plus difficile. Il y a de moins en moins d'argent. Les journalistes sont mal payés et les médias ont des difficultés à se soutenir. Mais ce qu'on a trouvé, ce qui était vraiment intéressant dans ces États, c'est les États où les attaques des politiques, des personnages politiques et des officiels dans le gouvernement sont les plus agressifs. C'est là où les journalistes se sentent le moins sécures.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Oui, en Pennsylvanie, on a trouvé que la partie républicaine ne parle plus aux médias. Et on a parlé à plusieurs journalistes qui travaillent dans Pennsylvanie, qui nous ont raconté des histoires très effrayantes où il y avait des gens avec des fusils qui les suivaient pendant qu'ils faisaient leur métier, pendant qu'ils couvraient des manifestations, par exemple. Et pendant tout ça, c'est encouragé par les personnes dans le gouvernement.
Alors en fait, on se trouve un peu dans une situation, on peut parler d'inversion accusatoire, c'est-à-dire que les journalistes essayent de faire un travail d'enquête, de vérification de l'information, et c'est eux qui sont taxés par Donald Trump de fake news.
Oui, on peut dire ça. C'est les journalistes qui sont le plus exposés parce qu'ils n'ont pas le moyen de combattre contre ce genre de rhétorique violente. Et on sait que la rhétorique de ce type peut très souvent devenir des actions violentes aussi.
Alors, est-ce que la presse américaine, selon vous, peut encore jouer un rôle de garde-fou de la démocratie aux États-Unis?
Je pense qu'une chose qui est claire, c'est que la majorité des Américains ne croient plus dans les médias mainstream, on dirait. Donald Trump a gagné la Maison-Blanche sans vraiment faire des grandes interviews avec les médias, sans parler à les médias, faire plutôt des discussions très amicables avec des podcasts sur YouTube et a plutôt évité les médias. Et pendant tout ce temps, il les a attaqués. Et pour ses efforts, il a gagné. Alors, les médias américains doivent se demander comment on peut produire un produit qui va regagner l'audience.
Mais il pense pouvoir se passer de cette presse parce qu'il dit, dans son discours après son élection, il dit « mais nous avons notre propre réseau ».
C'est vrai, et c'est peut-être plus simple pour lui et pour les autres politiques, mais pourtant la presse a un boulot très important d'expliquer à les gens, de contextualiser et de servir comme filtre. Parce que quand tu as des réseaux sociaux, il n'y a vraiment pas de modération du tout. Tu ne peux pas croire à n'importe quoi ce que tu vois, mais quand tu as la presse qui peut servir comme un filtre, pour trouver la vérité, pour fact-checker, c'est un service essentiel.
Merci Clayton Wimers. Je rappelle que vous êtes donc le directeur du bureau de Reporters sans frontières à Washington. Cap sur Israël à présent, où le limogeage du ministre de la Défense Yoav Gallant par Benjamin Netanyahou a fait la une de l'actualité ce mardi. Le Premier ministre a justifié son choix par des divergences trop nombreuses sur les guerres en cours, notamment à Gaza et au Liban. Alors pour contester cette décision, des milliers de personnes ont manifesté à Tel Aviv. Le sujet a donné lieu à de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, parmi lesquelles une infox virale.
parle.
Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
Dans ce contexte de tension, des internautes affirment qu'un coup d'État serait en cours dans le pays. Une fausse information basée sur des images sorties de leur contexte.
Oui, la vidéo se passe de nuit. On y voit une quinzaine de policiers israéliens marcher en formation sur une autoroute. Certains tiennent des extincteurs, d'autres repoussent des manifestants agités. Plusieurs journalistes sont présents, appareils photo à la main. Cette scène a été vue plus de 7 millions de fois ces dernières heures, rien que sur X. Ceux qui partagent ces images parlent d'un coup d'État militaire en cours en Israël. Des milliers de soldats israéliens en uniforme marchent, je cite, vers la résidence de Benjamin Netanyahou et des rumeurs circulent selon lesquelles ils ont l'intention de l'expulser, commente l'un d'entre eux. Un autre ajoute, c'est le chaos total à Tel Aviv.
Oui, sauf que cette vidéo ne montre pas un coup d'État en cours à Tel Aviv.
Non, les policiers que l'on voit à l'image ne sont pas en train de se soulever ni de marcher vers la résidence du Premier ministre. En réalité, ils se rendent simplement sur les lieux d'une manifestation organisée ce mardi soir par des habitants de Tel Aviv pour protester contre le limogeage de Yoav Gallant. Cette rumeur de coup d'État est donc totalement fausse.
Alors comment êtes-vous parvenu à vérifier ces images ?
Alors d'abord, nous avons cherché à les localiser. Pour ça, on s'est appuyé sur l'autoroute sur laquelle marchent les policiers, sur la voie de chemin de fer à côté de cette route et sur les deux grandes tours visibles en arrière-plan. En longeant l'autoroute 20, l'axe central de Tel Aviv sur un logiciel de cartographie type Google Maps, on retrouve bien cette même disposition au niveau du quartier de Tzamarot Ayalon. Une fois ces images géolocalisées, on a cherché à savoir qui les a filmées et quand. Cette fois-ci, on a fait des recherches par image inversée pour trouver la première occurrence de cette vidéo en ligne. Cela nous a permis de la retrouver sur le compte Twitter d'un journaliste du quotidien israélien Haaretz. Il précise en légende, des policiers d'Ayalon Sud se déplacent en groupe pour éteindre les incendies avec des extincteurs suivis de centaines de manifestants.
Une description confirmée d'ailleurs par d'autres médias et des images amateurs.
Oui, l'ensemble de la presse israélienne a couvert cette manifestation organisée à différents endroits de Tel Aviv. Au total, des milliers de personnes ont bloqué les routes d'Ayalon pendant environ 4h30. Et finalement, une quarantaine de personnes ont été arrêtées par la police.
Alors, est-ce que l'on sait qui a détourné ces images pour propager la rumeur d'un coup d'État ?
Précisément, non. Ce que l'on sait, par contre, c'est que cette infox a été poussée par des comptes influents, des comptes habitués à diffuser des fausses informations autour de la situation au Proche-Orient. Leur but, c'est de semer le trouble sur ce qu'il se passe vraiment et aussi de faire du clic avec des contenus faux et sensationnalistes.
Merci Grégory Genevrier. Cette chronique est à retrouver en images sur notre site. Il suffit de taper Info Vérif RFI pour retrouver d'ailleurs la vérification étape par étape. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation. Si vous souhaitez nous adresser des informations douteuses à vérifier, n'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp de l'émission au plus 33 6 08 94 93 05. On se retrouve ici même la semaine prochaine. En attendant, place à l'info sur RFI.
Il est pile 18h58 ici à Paris. C'est Radio France Internationale, RFI Soir.
Philippe Lecaplain.
Dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera Afrique Soir, présenté par Sylvie Berruet. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
La campagne électorale qui s'achève ce soir à Maurice sera dans votre journal.
Oui, car dimanche, les électeurs sont conviés aux urnes pour des législatives. Un scrutin qui va se jouer entre les deux blocs politiques menés par le Premier ministre sortant, Pravind Jugnauth, et Navin Ramgoolam, qui vise un retour au pouvoir. C'est une journée historique au Botswana, vous l'entendrez, qui connaît pour la première fois depuis l'indépendance l'alternance politique. Douma Boko, le nouveau président, a prêté serment après sa victoire éclatante aux élections générales face au parti au pouvoir depuis 60 ans. Aux Comores, le principal suspect dans le naufrage d'un bateau de migrants a été arrêté. Des trafiquants avaient coulé l'embarcation. Il y a eu au moins 25 morts la semaine dernière entre les Comores et Mayotte. Nous parlerons de ces tensions politiques au Ghana. À un mois de l'élection présidentielle, le Parlement est de nouveau suspendu pour une durée indéterminée.
Et puis du sport, du
football.
Oui, hein.
Du football, car demain, samedi, commence au Maroc la 4e édition de la Ligue féminine des champions. 8 équipes sont en lice pour un titre détenu par les Sud-Africaines des Mamelodi Sundowns.
Voilà tout cela dans Afrique Soir, entre autres, hein, puisque c'est une demi-heure d'information avec vous, Sylvie Berruet, et la rédaction Afrique de Radio France Internationale.